Puis là, ben, il y a Mathieu qui est en studio. Salut Mathieu.
Bonsoir.
Il vient de faire le saut, il ne s'attendait pas à ce que je me tourne vers lui.
Je vous écoutais religieusement. Bonsoir Gabriel, bonsoir Nancy.
Allô. Et puis, ben, c'est les, la chronique des apprêtés
de oui. J'y vais tout de go. Donc, comme tu annonçais plus tôt, je parlais surtout du projet de loi C-51, que les médias de masse ont parlé beaucoup quand il est sorti le 30 janvier. Mais on a un petit peu seulement entendu parler de quelques parties du projet de loi. Le fameux projet de loi dit antiterroriste, là, qui répond supposément aux attaques de, de Saint-Jean et d'Ottawa et au contexte mondial, international et tout et tout. Évidemment, c'est un projet de loi qui était déjà en construction, en préparation depuis longtemps. Que les conservateurs devaient sortir en 2015, année électorale, donc c'est pas vraiment une surprise. Mm-hmm. Ils l'ont un petit peu accéléré dans le contexte politique actuel. En l'annonçant, M. Harper a affirmé que les changements atteignent un équilibre entre le respect des libertés fondamentales et la lutte au terrorisme. Ça, c'est sa prémisse de départ. Mais quand on regarde un petit peu les différents articles éventuels du projet de loi, celui qu'on a entendu le plus parler, c'est le mandat plus large au SCRS, les services secrets canadiens, dont on parle souvent à la chronique ici.
Tant mieux, vous allez avoir... vous pourrez en parler encore plus.
Encore plus. Ils vont être plus connus en plus parce qu'ils vont enchaîner encore plus de monde. Actuellement, leur mandat se limite à la collecte de renseignements. On sait que dans les faits, ils font beaucoup plus que ça. Ils font par exemple l'espionnage, surveiller certaines populations, certains individus. Ils vont mettre même des agents doubles, toutes sortes de trucs comme ça dans certaines communautés. Mais officiellement, ils font seulement du renseignement. Et là, ils ont le droit de perturber les menaces à la sécurité du pays, c'est-à-dire d'intervenir. On parle ici, par exemple, empêcher des gens de se déplacer, intercepter des communications, intercepter des déplacements de matériel. Donc, ils font un peu le rôle plus policier, un rôle aussi que, par exemple, la CIA fait aux États-Unis. Okay. Donc, on change vraiment la nature du SCRS. Okay. Et ce qui est drôle, c'est que le SCRS avait été créé à l'origine des années 80, parce que la GRC qui possédait les renseignements avait fait un paquet de niaiseries au Québec, entre autres, on en avait entendu parler à la commission McDonald's, et on avait décidé de séparer les deux en disant, il y a le renseignement, il y a la police, mais là, on remet dans le fond tout le monde ensemble avec le fait que le SRS peut faire des actes légaux ou illégaux, et aussi que les communications vont être beaucoup renforcées entre la GRC, par exemple, et le SRS. Donc, ça, c'est, ça a été souligné par certains observateurs. On dit que ce nouveau pouvoir de perturber les menaces, pardon, va être assujetti à une autorisation judiciaire, mais bon, ça va être à vérifier dans les faits comment ça va se faire. Sinon, criminalisation de la préconisation ou de la fomentation d'actes de terrorisme. Ça, on n'est pas loin de l'apologie qui fait rage, qui fait débat en France actuellement avec les arrestations, entre autres, d'enfants. Donc, on le met pas de façon aussi claire qu'en France, mais on s'en va vers ça. Mais comme c'est un projet de loi qui va être amendé, qui va être redéfini, on verra plus la version finale. Mais c'est sûr qu'on parle ici d'incitation. Donc, on n'est pas apologie, mais on n'est pas loin. Donc, ça peut être très, très large. On s'entend que ça peut déborder. Saisie de propagande terroriste. Actuellement, la loi autorise seulement la saisie de documents haineux ou de pornographie juvénile. Là, on parle de propagande terroriste. Fait que là, on va sûrement déborder des militants islamistes. Ça peut aller vers toutes sortes de militants militants.
Anticapitalistes, posons, ça rentre là-dedans. Okay.
Ça pourrait, en tout cas, c'est pas défini, évidemment. Donc, ça pourrait aller de façon assez large. Donc, ça, c'est à surveiller aussi. Sinon, des trucs un peu plus techniques, techniques dans un sens, c'est-à-dire on abaisse les seuils requis pour imposer, pour arrêter des gens et pour assortir des conditions plus sévères. Et on fait passer la détention préventive de 3 à 7 jours. Ça, c'est quand même assez fondamental dans une société, si on peut détenir des gens sans accusation.
Sans preuve, sans rien.
Sans accusation, surtout. Okay. Ça existait déjà dans l'ancienne loi antiterroriste qui avait été faite après les attentats de 2001. Mais là, on parle de 3 à 7 jours pour qu'on peut être détenu sans accusation, le temps que les policiers vérifient certaines choses. Peut-être noter aussi que la loi antiterroriste de 2002 a été à peu près jamais appliquée. Elle comprenait déjà des éléments dont je vous parle. Et là, on rajoute d'autres choses avec des trucs plus sévères sans avoir vérifié pourquoi le reste n'avait pas été appliqué. Puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc, évidemment... Bon, c'est électoral comme exercice, on le sait, mais quand même, c'est à souligner. Protection des témoins. On élargit la notion de témoins, donc des gens qui seraient obligés de témoigner et aussi qui seraient protégés par le système de justice. Ça, c'est quelque chose à définir aussi. Sinon, on élargit la no-fly list qui existe déjà pour les gens qui officiellement porte menace à la sécurité aérienne.
C'est quoi ça, la no-fly list? Ça,
c'est la liste d'interdiction de vol, c'est-à-dire qu'il y a des listes qui existent. On a entendu parler, entre autres, dans le cas de Maher Arar, des gens qui ne peuvent pas circuler en avion parce qu'ils appartiennent à des organisations ou sont sur des listes X.
Ils vont écrire plus de monde là-dedans?
Oui, c'est que là, ils vont interdire aux gens, par exemple, qui veulent supposément se rendre à l'étranger pour faire des actes. T'sais, on a entendu parler des jeunes qui partent au monde. Ça va inclure ça. Donc, on ne parle plus juste de gens d'organisation, mais de gens potentiellement. Okay. Mais déjà que la no-fly list était contestée parce que ça inclut un paquet de monde. dont des noms, des faux noms, entre autres. Et sinon, meilleure communication, ça, je vous l'ai dit, entre diverses agences et ministères fédéraux. Donc, on parle ici autant de Revenu Canada, qui peut communiquer avec la police, le SRS. Donc, on enlève un peu les barrières entre les différents ministères et organisations gouvernementales. Peut-être tu veux finir là-dessus en vous disant que le comité de surveillance du SRS qui existe, qui est un espèce de truc fantoche là, de nomination partisane. Je suppose que vous connaissez Philippe Couillard et Arthur Porter.
Ils ont été ensemble,
sur ce comité-là il y a quelques années. Donc, c'est vraiment des nominations partisanes. D'ailleurs, le commissaire, il y avait un commissaire qui devait surveiller le SRS à l'époque, a été éliminé par le conservateur il y a 3-4 ans. Fait qu'il reste un comité, comme je vous disais, avec des gens qui sont nommés de façon partisane, des gros salaires, pour supposément surveiller les activités, font un rapport par année, mais c'est complètement inefficace. Donc, voilà pour ce projet de loi-là. On va en reparler en masse. Je voulais juste au moins mettre les bases pour aujourd'hui. Parce que c'est, ça va être dans l'actualité pour plusieurs semaines. Sinon, ben, l'islamophobie en France et au Québec, c'est parce que la même semaine, il a sorti des données. Fait que je voulais quand même en parler parce que ça n'a pas été beaucoup diffusé dans les médias. En France, 70% d'augmentation entre janvier 2014 par rapport à janvier 2015. Avec tout ce qui se passe en France, c'est pas très, très surprenant. Collectif contre l'islamophobie en France qui a publié les chiffres. On parle donc de centaines d'actes. On parle autant de discrimination, d'insultes verbales, d'agressions physiques, d'attaques de bâtiments. Donc, c'est un peu de tout. Là. C'est vraiment... on recense un peu tout. En 691 actes recensés en France. En 2014, 764. Mais là, on est déjà à plus d'une centaine depuis le début de l'année, fait que ça va augmenter beaucoup cette année. À noter, plus de 80% des actes sont contre des femmes, donc des femmes musulmanes, parce qu'évidemment, elles sont plus...
visible,
donc ça c'était souligné. Le collectif souligne quand même quelque chose d'intéressant, c'est que le mot islamophobie qui était à peu près pas utilisé par les politiciens ni les médias en France depuis quelques mois est de plus en plus entré dans le langage. Bon, ça est une évidence, vous allez me dire, mais les gens refusaient de le faire, mais là c'est de plus en plus rentré dans le langage en France.
Ça c'est un point positif, j'ai l'impression.
Ouais, ben au niveau en tout cas de la réalité de la chose, là, puis de nommer les choses comme il faut, moi je trouve ça intéressant, tout à fait, Et peut-être vous dire que ce collectif contre l'islamophobie en France est à la défense actuellement de 3 enfants qui ont été arrêtés pour avoir supposément fait l'apologie du terrorisme, dont le petit Ahmed de 8 ans dont on a entendu parler là, dans les médias, qui avait été arrêté parce qu'il avait dit des choses à l'école. Mais il y a 8 ans, on s'entend, mais il était en garde à vue pendant plusieurs heures. Donc, il s'occupe de cas précis comme ça aussi, d'abus et de... qui dégénère. Sinon, à Montréal, ben, il y a eu une attaque contre une école musulmane à Notre-Dame-des-Grâces la semaine passée. Bon, des vitres brisées pendant la fin de semaine. Par exemple, on dit que c'est des impacts de carabines à air comprimé quand même. C'est pas juste peut-être des jeunes de 12 ans qui s'amusent. Tout à fait. Le collectif québécois contre l'islamophobie, dont le porte-parole est Adil Sharkawi, dont on a beaucoup entendu parler ici, parle de 123 plaintes entre le 7 et le 21 janvier. Et de 94 depuis le 21 janvier jusqu'au 8 février. Donc, c'est beaucoup plus ça aussi que l'année passée. Et peut-être aussi dire qu'il y a eu beaucoup de critiques contre les médias de masse qui ont été recueillis par le collectif, des gens qui trouvent que la communauté musulmane est un peu trop visée, identifiée par les médias régulièrement. M. Sharkawi souligne qu'il ne se passe pas un jour sans qu'un article soit publié à ce sujet, ce qui contribue à gonfler la menace aux yeux de l'opinion publique. Donc, on parle de discrimination, mais aussi de pointer toujours aussi les mêmes communautés puis les mêmes personnes. Donc, voilà ce qui se passe au Québec. Peut-être aussi faire le lien avec l'affaire Chaoui. Je ne reviendrai pas là-dessus, tout le monde a entendu parler, mais il y a eu un cas, il y a des petits malheureusement dans ces situations-là. Shawinigan ont interdit un dézonage de terrain pour faire une mosquée à Shawinigan Sud. Ça s'est passé la semaine passée au conseil municipal. Donc, ils ont retiré une motion qu'ils avaient déjà adoptée pour autoriser une mosquée dans un quartier industriel. Évidemment, c'est discriminatoire. Bon, les porte-parole là-bas se plaignent de ça. Mais ce qui est à souligner, c'est que le maire, après, a fait des entrevues un peu partout dans les médias en disant « Je sais que c'est discriminatoire, mais ma population me demande de faire ça. » Fait qu'on se retrouve vraiment dans une situation un peu particulière. Beaucoup de gens ont félicité le maire et ses conseillers pour avoir pris cette décision-là. Et là, bon, on se demande si ça va faire boule de neige un petit peu partout au Québec au niveau de l'accès au centre communautaire pour les communautés musulmanes. Évidemment, ici, il n'y a pas question d'appuyer les propos de l'imam Chaoui homophobe et misogyne et tout ça, mais au niveau, disons, de prendre des règlements de zonage pour empêcher des gens de se réunir, c'est un peu particulier. On sait très bien que ça va être battu devant les tribunaux éventuellement, mais c'est quand même une situation que les médias ont aussi très, très mal couverte. Donc, évidemment, ça a été spectaculaire et sensationnaliste avec le subtil maire Coderre. Donc, voilà, c'est des... tout relié un peu les grands actes islamophobes. Et si j'ai un petit peu de temps, peut-être... j'ai ramasse du temps, des petites nouvelles autres. Juste vous dire que c'est le fun de trouver des petites nouvelles dans les médias dont on n'entend pas beaucoup parler puis qui sont révélateurs d'événements. Aux États-Unis, on sait qu'il y a eu un décret présidentiel pour faire naturaliser des millions d'immigrants dits clandestins, dont beaucoup de latino-américains. Mais une des conséquences actuellement, ce qui se passe, et ça, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est que ça a fait que ça a priorisé les immigrants, immigrantes et les adultes et enfants qui sont arrivés donc par la frontière sud des États-Unis. Et souvent, c'est souvent des parents avec des jeunes enfants ou des mineurs sans adultes. Okay. Ça, c'est ceux qui sont priorisés, qui sont détenus. Mais ce qui fait qu'il y a 415 000 immigrants de d'autres pays qui attendaient une audience pour soit avoir une carte verte, avoir un statut de résident permanent, demande d'asile ou réunification familiale, qui ont été reportés jusqu'en 2019. Yeah. Donc, vraiment, fait que là, on parle d'une réforme qui a l'air intéressante, mais on ne donne pas les moyens du tout pour qu'elle se réalise dans les faits. Donc, ça fait vraiment le bordel. Ça fait de la chicane entre les différents immigrants, les différentes villes, les différents États. Donc, ça fait que les gens ont eu des dates. Ils n'ont pas eu de date. Ils se sont fait reporter en disant que ça pourrait aller jusqu'en 2019. Il n'y a personne qui a eu de confirmation exactement de quand ils passeraient devant un juge pour pouvoir avoir leur statut. Donc, voilà. C'est une petite nouvelle que je voulais souligner, mais qui est quand même assez particulière. Donc, voilà. Quand on couvre la nouvelle comme il faut, on va dans l'autre côté du miroir d'une nouvelle. C'est intéressant de voir un petit peu ce qu'il y en est. Donc, voilà. C'est bien. C'est sûr qu'il y a eu une augmentation beaucoup des immigrants latino-américains depuis, à cause de ce qui se passe au Mexique, entre autres, à cause aussi que les gens savaient qu'il y avait une réforme qui s'en venait, donc beaucoup de gens en ont profité pour venir aux États-Unis. Mais c'est sûr que ça a tout un effet domino là, sur l'ensemble des autres. Et sinon, j'avais une petite nouvelle plus technique, je vous dirais, mais on a parlé souvent à la chronique des travailleurs étrangers au Canada qui sont... il y a eu une réforme du régime l'année passée, beaucoup plus axée sur les demandes des employeurs, sur remplir les... combler les postes qui sont pas assurés par des Canadiens. Il y a eu l'espèce de scandale où est-ce qu'il y a des grandes entreprises, dont des banques, qui profitaient de ce programme-là pour payer des immigrants moins chers puis pas offrir les emplois en général à tout le monde. Fait que là, le gouvernement est obligé de faire une réforme. Et là, dans les petites conséquences ou les petits trucs autour de la réforme, on parle ici en Alberta. Il y avait à peu près 10 000 personnes qui avaient demandé leur résidence permanente après avoir travaillé dans le programme des travailleurs temporaires, ce que les gens peuvent faire. Et là, finalement, débordé, évidemment, trop de demandes. La réforme a été faite, mais on n'a pas mis les ressources, on coupe partout. Et finalement, fait que là, il y a eu une espèce de programme temporaire d'un an pour les travailleurs seulement de l'Alberta qui demandaient une résidence permanente, d'avoir un sursis d'un an, le temps de passer. Donc, c'est technique comme information, mais ça montre un peu l'espèce de façon de faire des politiques qui sont à court terme et qui sont souvent pas pratiques du tout, qui sont souvent idéologiques. Et ça va revenir régulièrement parce que c'est le genre de situation avec toutes les réformes que les conservateurs ont fait. Ils ont voulu tout accélérer et ils ont voulu couper des choses, mais finalement, on se retrouve avec des gens qui attendent ou qui sont dans des situations encore plus précaires qu'ils l'étaient, finalement. Donc, fait que voilà, c'est ce que je vais vous dire. Peut-être je peux faire une petite annonce sur notre site internet à patrieanonyme.info. Il y a deux vidéos qui sont apparues dans les dernières semaines, justement sur une parodie des... C'est deux parodies des documents de recrutement, des vidéos de recrutement du SRS, en anglais, en français.
C'est la même vidéo, vous avez changé les paroles.
Il y en a un en anglais et un en français.
Oh, c'est ça, mais avec les personnages d'origine.
On a mis des sous-titres un peu plus humoristiques, disons, donc c'est disponible depuis quelques semaines.
C'est excellent, je recommande.
Merci Nancy de l'encouragement. Donc voilà, allez sur apatrideanonyme.info si ça vous tente.
Ben merci beaucoup Mathieu.
Merci à vous deux.
On se revoit, on revoit les apatrides anonymes dans deux semaines.
Dans deux semaines, exactement.